RMC. La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye.
Aujourd'hui encore, je vous ai préparé une compilation du meilleur de La Haye, l'amour et vous. On parlera naturisme, est-ce que c'est fait pour tous? Et puis je diffuserai également un des conseils de notre coach en séduction. Enfin, dans le Love Conseil, vous apprendrez un peu plus sur les vertus du Jensen pour votre sexualité, bien sûr. Mais d'abord, je vous propose qu'on écoute l'avis de Michel Schumann sur la masturbation, les excès. Et ben oui, les excès ne sont jamais très bons.
Je parle de la masturbation masculine que je connais mieux que la masturbation féminine.
Ah bah ça tombe bien, moi je connais mieux celle féminine.
Deux, on va faire une solide équipe. chez l'homme, il y a ce qu'on appelle la période réfractaire, c'est-à-dire vraiment l'espace qu'il y a entre deux activités sexuelles où on n'a pas d'excitation possible physique et même une espèce de répulsion parfois même physique et peut-être pas d'excitation émotionnelle ni intellectuelle. Donc dans ces moments-là, on peut rien faire. Et si on se masturbe, on a quand même une période réfractaire après la masturbation. Quel que soit le procédé par lequel on fait l'amour, soit on fait vraiment l'amour avec des partenaires, soit on se masturbe, on a une période réfractaire. Et plus on vieillit, plus cette période réfractaire s'allonge. Donc effectivement, pour des couples qui se voient pas, ça peut être rédhibitoire. Mmh.
Donc pour l'instant, Karine revient sur les femmes Fontaine. Bonjour Karine.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel.
Bonjour.
Ce sujet m'interpellait quelque part parce que moi je suis pour les jouets, pour les sextoys. Je suis d'accord avec vous Brigitte que c'est très bon pour le couple parce qu'en enfin moi je m'en sers essentiellement pendant les rapports en couple et j'utilise un petit vibromasseur et en fait ça m'a changé la vie parce qu'avant les pénétrations pour moi n'étaient pas très longues, elles étaient très rapidement douloureuses et tout, et là maintenant c'est vrai qu'on arrive à s'éclater en pénétration, je deviens un peu plus vaginale et tout grâce à ce système on va dire.
Exactement, parce que comme beaucoup de femmes, vous avez un clitoris qui fonctionne bien, mais un vagin un petit peu éteint, et le fait de restimuler votre clitoris réveille votre vagin, et du coup non seulement vous avez plus de plaisir, mais votre compagnon il s'y retrouve aussi.
Oui, largement, parce que c'est vrai que le fait de pouvoir avoir des pénétrations beaucoup plus longues et sans douleur, et au contraire très excitées, c'est bon pour tout le monde, quoi.
C'est bon pour le bonheur des couples.
Voilà, pour le bonheur des couples. Et c'est vrai qu'en plus, j'ai découvert le phénomène Fontaine, en fait, grâce à ce système, entre guillemets, puisqu'en fait, je me suis rendu compte qu'il me fallait une excitation supplémentaire par rapport au rapport, on va dire, pas routinier, mais enfin en général, quoi. Et qu'avec ça, c'est vrai que c'est comme si j'avais le deuxième homme avec moi, et c'est vrai que ça fait, tout de suite, ça me fait couler, mon mari est ravi, quoi.
Oui, mais de toute façon, beaucoup de femmes ont découvert qu'elles étaient fontaines grâce à un jouet.
Fontaine, c'est peut-être un peu abusif quand même comme terme, parce que la femme fontaine, on sait que ça existe, et les femmes fontaines se plaignent d'être des femmes fontaines, parce qu'elles inondent réellement le lit, et c'est pas toujours agréable pour elles, ni pour leurs partenaires, et notamment quand s'il leur arrive d'être excitées dans la rue, c'est pas forcément confortable.
Non, ça c'est sûr.
Mais rassurez-vous, il existe des hommes fontaines aussi, donc...
Mon mari adore. Mais c'est vrai que, pour en revenir à mon couple, c'est vrai qu'on est mariés depuis 27 ans et que si on continue à avoir une vie sexuelle épanouie, c'est parce que tout au long de notre vie d'amoureux, on a toujours cherché quelque chose de plus qui pourrait nous faire vibrer. Et c'est vrai que ça, en l'occurrence, ça a été très très bien.
Bah oui, vous faire vibrer, il fallait le vibromasseur, c'est logique,
voilà.
Karine.
Voilà. Voilà.
On continue, nous, avec Edouard qui est avec nous. Bonjour, Edouard.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel.
Bonjour,
alors
Edouard.
Je vous appelle parce que j'ai un petit souci.
Voilà. On vous écoute, allez-y.
Il y a 13 ans de ça, je suis sorti avec une amie pendant un an.
Ouais.
On s'est quitté parce qu'elle habitait à Paris, moi à Toulouse, et qu'on était loin l'un de l'autre, donc c'était pas possible. Et puis en plus, on n'était pas assez mature, donc ça aurait pas marché. Bon, ce qui se passe, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, là, ça fait un an jour pour jour à peu près, qu'elle est mal dans son couple. Il y a 7 mois de ça, elle est venue me voir pour me dire qu'elle était pas bien, ça veut me dire qu'elle avait encore des sentiments pour moi. Mais elle m'a demandé si j'en avais pour elle, je lui ai dit qu'effectivement oui, je ne l'avais jamais oublié. Bon, le truc étant que c'est que quand on s'est mis ensemble, donc on a attendu 2 mois pour coucher ensemble, pour être sûr qu'elle soit sûre de ce qu'elle voulait. À l'heure d'aujourd'hui, ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Là, elle est en pleine séparation avec son conjoint. Seulement, elle arrive à une période où elle commence à se poser des questions, à savoir si elle se sépare ou si elle reste avec lui, tant bien que mal. Le truc étant qu'aujourd'hui, moi, je suis inquiet de savoir si elle va franchir le pas ou si elle va rester avec cet homme-là. Parce que, si vous voulez, ils ont acheté une maison ensemble, ils ont un enfant ensemble, et que moi, par exemple, moi, je suis papa célibataire, j'ai un logement, mais je suis pas propriétaire, et bon, après, elle me dit que quand même, avec moi, je lui apporte ce que lui apporte pas son compagnon, que quand elle fait l'amour avec lui, elle pense à moi, parce que là, il y a quoi, il y a deux, trois semaines de ça, ils ont refait l'amour ensemble, et elle m'a dit que ça lui avait rien fait.
Mais voilà, ça vous a fait quelque chose, visiblement.
Ah ben moi, ça m'a beaucoup peiné.
Ben bien sûr. Écoutez, Edouard, vous êtes dans une situation qui est toujours un petit peu pénible parce que vous n'êtes pas maître de votre situation. C'est elle au fond qui a toutes les cartes en main. Puisque elle a une sécurité et une relation qui est quand même aussi importante parce qu'il y a un enfant, hein, si j'ai bien compris. Il y a du matériel qui est en jeu aussi. Et parallèlement, elle a un amant qu'elle a retrouvé. Et qui a l'air d'être un bon amant pour elle. Donc elle n'a pas envie de choisir pour l'instant, visiblement. Hein. Et, mais quand je dis elle n'a pas envie, c'est même qu'elle ne peut pas. Hein. Les deux lui conviennent bien. Mais vous, ça ne vous convient pas, parce que du coup, vous vous retrouvez... Vous êtes seul, vous, pour l'instant, hein, c'est ça?
Exactement.
Oui. Donc vous êtes un petit peu celui qui...
Excusez-moi de vous couper, je venais vers vous parce que ce soir je la retrouve pour qu'on discute. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi depuis une semaine, parce qu'on en a discuté vite fait il y a une semaine, moi depuis une semaine j'ai noté sur un papier, j'ai classé tout par catégorie, c'est-à-dire vie sociale, vie en couple, parentalité, j'ai marqué un petit peu comment moi je voyais les choses.
Oui.
Sans dénigrer son conjoint, de façon à pas la peiner là-dedans.
Mais vous avez quoi? Vous avez l'intention de faire le bilan de son couple?
Non, j'ai l'intention de faire le bilan de ce qui se passe entre nous et de comment ça se passe entre nous. Non, surtout pas faire le bilan de son couple, parce qu'à mon avis, c'est la meilleure des conneries.
C'est bien. Vous suivez mes conseils quotidiens, Edouard.
Tout à fait.
je sais pas si c'est tellement le moment. Parce que vous êtes quand même dans une situation un peu délicate pour l'instant, hein, puisque elle était, enfin, il me semble, si j'ai bien compris ce que vous me disiez, il y a quelque temps, elle était presque prête à tout quitter pour vous.
C'est cela.
Et aujourd'hui, elle est en train de faire un peu marche arrière. Donc, c'est pas le moment de lui mettre la pression.
D'accord.
Et puis, je crois que quelque part, je me permets, hein, Brigitte, vous jouez un petit peu contre vous, parce que elle est rationnelle, manifestement, dans l'histoire. Vous êtes plus émotionnel. Et là, vous voulez l'attaquer sur le terrain rationnel qui est son terrain. Et là, vous risquez de vous planter. Parce que là-dessus, c'est elle qui aura les arguments.
D'accord. Très bien.
Non, moi je pense pour l'instant, hein, ça fait combien de temps qu'elle a plus ou moins décidé de rester avec son compagnon?
En fait, si vous voulez, elle lui en a parlé la semaine dernière, elle lui a avoué que voilà, ça faisait 6 mois qu'elle le trompait. Depuis qu'elle en a discuté, elle est un peu incertaine. Et du coup, elle m'a demandé de lui laisser la semaine pour réfléchir. Elle m'a dit qu'il fallait qu'on discute ce soir. Bon, je ne sais pas de quoi il va retourner, mais j'ai un peu peur que ce soit pas en ma faveur.
Ça, vous n'en savez rien. Et de toute façon, si c'est pas en votre faveur, je crois quand même que si elle avait pris la décision de vous quitter, elle ne viendrait pas vous voir ce soir.
D'accord.
Donc moi, je crois qu'il faut plutôt ce soir...
Parce que, en fait, si vous voulez, excusez-moi encore.
Je vous en prie.
Ce qui a fait que... On devait se voir ce week-end. Ce qui a fait qu'on se voit ce soir, c'est que hier, ne pouvant pas avoir d'interaction, ne voulant pas l'englober dans quelque chose où elle se sent étouffée. Donc du coup, je l'ai laissée tranquille. Je lui ai envoyé 2-3 petits messages, hein, avant le week-end, lundi matin, simplement pour lui dire que je pense à elle. Et j'avais fait envoyer un bouquet de fleurs à son boulot, et c'est ça qui a fait qu'elle m'a rappelé.
Écoutez, je trouve que vous manœuvrez assez bien, Edouard. Donc moi, je vous conseillerais ce soir de jouer l'homme amoureux qui attend ce qu'elle est prête à vous donner. Et puis laissez pour l'instant, mettez pas la pression pour l'instant, quoi.
D'accord, ok.
Hein, je crois. Parce que si vous lui mettez la pression, vous risquez vraiment de perdre.
Ouais. Si je mets tout en exergue, tous les points comme quoi moi je suis différent de lui et tout ça, c'est le meilleur moyen que je me plante.
Oui. Ah oui. Alors oui. Ça, les comparaisons...
Non, laissez l'avenir.
Ok, très bien.
En revanche, vous avez vraiment tout à fait la capacité à envoyer de temps en temps un petit truc pour lui montrer que vous pensez à elle, ça c'est formidable. Mais il faut qu'elle sente aussi que vous n'êtes pas comme l'amoureux épris, complètement amouraché et qui est complètement dépendant d'elle. Il faut aussi qu'elle sente
ça, elle sait très bien que je ne vis pas à travers elle et que j'arrive à avoir mon indépendance et que voilà, je suis pas là pour l'étouffer. Et que
donc prenez.
Ma vie en dehors.
Bon, ça c'est très bien. Donc vous avez pas besoin de mes conseils.
Bon, d'accord, très bien.
Merci Edouard.
Merci beaucoup.
Et puis vous nous tenez au courant, évidemment. Sabine, c'est possible une amitié avec un ex, hein?
Oui, bonjour.
Bonjour Sabine.
Oui, effectivement, moi j'avais été un peu interpellée par une précédente émission où on parlait de ce qui pouvait rester de la relation après avoir vécu en couple. Et c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir eu un premier couple, on va dire, qui était peut-être un couple un peu jeune, qui était lié par une forte amitié et beaucoup de passion commune, mais c'était pas pour l'avoir vécu après, ce qu'on peut appeler vraiment finalement l'amour. C'était vraiment une amitié qu'on a sûrement confondue tous les deux avec l'amour. C'est ce qui nous a permis ensuite, j'allais dire, d'évoluer de façon relativement symétrique. C'est peut-être aussi ce qui permet de rester ensuite dans une relation tout à fait cordiale, même plus. Parce que il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de malhonnêteté, surtout ce que je vois malheureusement souvent autour de moi quand des gens se séparent. C'est une relation qui est basée sur des constats très simples. Bon ben, on vit ensemble, mais en réalité, on est surtout bien ensemble pour certaines choses, parce qu'on a des passions communes, parce qu'on a parfois un rythme commun, mais on a constaté au fil du temps. C'est pas.
Mais vous êtes séparés aujourd'hui ou vous êtes encore ensemble?
Oui, vécu 10 ans ensemble. On s'est ensuite séparés et maintenant je vis depuis 20 ans avec mon mari où on a un enfant et un garçon maintenant de 17 ans. Et c'est vrai que c'est pas la même relation, mais bon.
Vous êtes resté toujours en relation avec ce.
Ah oui, mais même en excellente relation.
C'est un ami de la famille, quoi.
Voilà, exactement. Lui a refait sa vie de son côté avec une amie qu'on avait déjà aussi ensemble. Et on a aujourd'hui, j'allais dire, on a nos enfants se connaissent, même s'ils habitent pas très près de chez nous, on se voit parfois. Et c'est vrai qu'on a, on est passé à autre chose. Alors. J'avais bien entendu une fois une émission où vous disiez il y a une phase transitoire où effectivement l'éloignement est bienvenu. Je suis un peu d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y a une phase où on ne sait plus se positionner. On construit autre chose, mais il y a quelque chose qui est fini. Mm-hmm. C'est difficile d'avoir l'attitude juste. Ça peut être des choses très simples comme quand on rencontre la personne, se faire une bise ou des choses comme ça. Au départ, c'est pas aisé, voilà, c'est pas facile, on sait pas se positionner. Et puis en fait, au fil du temps, il y a des choses qui se construisent à côté, puis on mûrit aussi. Hein. Aujourd'hui, j'ai 46 ans, c'est pas la même chose que quand j'en avais 20. Et au fur et à mesure du temps, on retrouve la bonne attitude, la bonne position, puis on peut reprendre des relations d'amitié, en sachant que forcément, on se connaît par cœur. Toute notre histoire, elle existe en parallèle.
Oui, donc, de toute façon, l'avantage quand on a eu une relation sexuelle qui a duré, on a dépassé ça et en effet l'amitié peut être très très solide. Je crois que ce qui vous a surtout beaucoup aidé tous les deux, c'est que vous êtes très bien conduits tous les deux, vous avez été clairs, honnêtes. Donc il y a pas comment dirais-je. Voilà, c'est ça, il y a pas de fantôme dans les placards quoi.
Non. Non. Et voilà, ça permet après d'avoir une relation très saine, y compris avec nos conjoints respectifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus
d'ambiguïté,
ni de malentendus sur les relations qui sont établies les uns avec les autres, quoi. Et j'avoue que c'est très agréable parce que c'est aussi, alors pour ma part, j'ai la chance, mais ça fait aussi la durée dans le temps. C'est quelqu'un sur lequel je sais que je peux compter en cas de coup dur. C'est quelqu'un qui sera un vrai ami. Bienveillant, de la même façon. C'est une amitié qui est basée sur le fait d'avoir quand même partagé énormément de choses, même j'allais dire beaucoup plus que la majorité des amis. J'ai d'autres amis masculin que je connais depuis pratiquement aussi longtemps et autres. Et aujourd'hui, je m'aperçois qu'on a des relations d'amitié qui sont vraiment basées sur la confiance et sur le fait qu'on se connaît parfaitement bien.
Je pourrais me permettre presque une comparaison, c'est-à-dire qu'avec cet homme avec qui vous avez quand même vécu, ben il a fait partie de votre famille, donc c'est un peu comme un frère.
C'est exactement ça. C'est d'autant plus vrai qu'on a très malheureusement, mais malheureusement c'est la vie, on a enterré sa maman il y a très peu de temps. Et c'est vrai qu'aux funérailles, c'était ma famille tout en n'étant plus ma famille officiellement. Mais c'est vrai que tous les gens, à l'occasion de funérailles, il faut aussi être dans une attitude bienveillante les uns avec les autres, mais c'était extrêmement facile de l'être, c'est-à-dire que ce soit vis-à-vis de la famille de mon ex-mari, on avait tous ce regard bienveillant les uns pour les autres, et c'est vrai que
oui, il y a quelque chose qui vous réunit par votre vécu,
Le lien existe, c'est-à-dire le vécu, il n'est pas du tout nié, il fait partie de moi, c'est une partie de ma vie en plus qui a été très heureuse, c'était pas du tout une déception, c'était ce que j'appelle une erreur de jeunesse qui a bien tourné finalement,
Merci beaucoup de ce témoignage, Sabine. Mais en effet, ça peut exister, l'amitié, après. Mais pour ça, il faut être adulte, évidemment.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.
Et tout de suite, notre SOS Séduction avec Noah Rose qui est avec nous. Je vous propose aujourd'hui aussi un mail. C'est Caroline qui a 35 ans qui nous a envoyé ce mail. Je vous le lis. Je suis tombée amoureuse de mon patron. On s'entend vraiment très bien tous les deux, mais je n'ose pas lui avouer de mes sentiments. Comme cette situation me fait souffrir, j'envisage de lui envoyer un texto pour lui proposer de prendre un verre avec moi et de tout lui dire. J'ai tellement envie de l'embrasser. Enfin bref, je vous passe les détails. Est-ce que c'est une bonne idée? Voilà, il paraît qu'il vient juste de se séparer de sa femme.
Ouais, alors encore une fois, il y a plusieurs choses dans le message. C'est-à-dire que, bon, déjà, il vient juste de se séparer. Donc est-ce que c'est de bon ton si elle vise une relation durable? Après, si elle vise un coup d'un soir, alors peut-être que c'est le moment, mais si elle vise
elle a l'air d'être amoureuse,
Si elle vise une relation durable, est-ce que c'est le bon moment? Parce qu'elle pourrait être très bien prise pour une femme pansement, finalement. Il vient de se séparer, il peut se servir d'elle, même pas forcément tout à fait consciemment, mais il peut se servir d'elle finalement
pour penser
ses blessures, pour oublier sa séparation. Donc ça aide de savoir un petit peu jauger s'il est malheureux, s'il pourrait se servir d'elle, etc. Sinon,
le problème, c'est que c'est quand même son patron.
C'est quand même son patron. Donc, si ça se trouve, il pourrait être tout à fait intéressé, mais s'il est très professionnel, peut-être qu'il veut
garder
de distance, etc. Ouais. Donc, ne pas l'aborder non plus, ça serait pas bien. Si elle a envie de le faire, il faut qu'elle soit fixée. Si elle est amoureuse, à un moment donné, elle peut pas rester dans cette situation incessamment. Je sens beaucoup de j'ai envie de l'embrasser, etc. De tout lui dire. Elle est beaucoup menée par ses émotions. C'est une femme. Mais il faut qu'elle soit. Ouais, mais il faut qu'elle prenne un peu de distance par rapport à ça, parce qu'elle peut l'effrayer aussi, surtout qu'il sort quand même d'une rupture. Donc le SMS, ça peut être une chose. Moi, je préconiserais plutôt de lui parler, même sur le lieu de travail, quand il n'y a pas un auditoire autour, quand ils ne sont pas en réunion, ou je ne sais pas, peut-être à la machine à café, j'en sais rien, mais de discuter avec lui et dans la discussion, de lui montrer des signes d'intérêt déjà. Le relancer, peut-être un petit peu toucher ses cheveux, lui montrer que lui parler de choses un petit peu plus personnelles, voir s'il a du répondant. Et à ce moment-là, pourquoi pas lui proposer d'aller boire un verre, en effet.
D'accord. Voilà. Donc, plutôt une approche directe.
Je dirais indirecte au départ.
Oui, je dis directe, en tout cas, pas virtuelle, quoi.
Pas virtuelle. Voilà. Pas virtuelle, parce qu'ils se voient tous les jours, et là, forcément, elle va envoyer un SMS. Ça peut également avoir d'autres.
Et le côté, la bonne copine qui se rend compte qu'il est un peu triste et qui a envie de le consoler, non, ça, c'est pas une bonne.
Oui, mais justement, elle passe pour la fille qui a envie de le consoler. Est-ce que c'est ce qu'elle veut? Est-ce que c'est son objectif? Il faut qu'elle sache ce qu'elle veut, finalement. Le consoler, ce sera certainement possible, mais si c'est pour qu'elle soit malheureuse après, je ne conseillerais pas.
Merci en tout cas, Noah Rose, de vos conseils. Caroline, essayez de les suivre et ne vous laissez pas trop emporter par vos émotions, surtout.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie. RMC, Lahaie, l'amour et vous, Brigitte Lahaie.
Dans quelques minutes, nous écouterons le touchant récit de Céline qui nous parlait de son coup de foudre. Mais d'abord, écoutons les arguments de Lucie Vincent, notre neurobiologiste préférée. Et justement, je lui demandais si le coup de foudre, ça existe vraiment. Vous avez dit, il y a des gens qui pensent que c'est n'importe quoi, que ça n'existe pas, et il y a des gens qui y croient. Et moi, je dis, c'est la division entre les gens qui l'ont connu et les gens qui ne l'ont pas connu.
D'accord.
Parce que quand on a connu un coup de foudre, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. C'est tellement physique et c'est tellement obsédant que on ne peut pas dire que c'est une chose inexistante. Ça nous bouleverse la vie. Et donc, pourquoi ça arrive chez les uns et pas chez les autres, hein? C'est ça la vraie question. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, la rencontre entre deux partenaires amoureux, c'est quelque chose qui est beaucoup plus aléatoire que dans le temps. Et le coup de foudre est un mécanisme, en fait, un mécanisme de captation de l'autre. Parce que l'amour est un contrat entre deux individus, très matérialistes en réalité, hein, avec un but extrêmement précis. Si l'amour existe, c'est parce que on a besoin d'être deux autour d'un enfant pendant les premiers mois ou mettons les premières années de la vie d'un enfant. Une mère toute seule chez l'espèce humaine ne peut pas assurer assez bien la survie de son petit pour que l'espèce puisse survivre. Mmh. Et donc, l'évolution naturelle de l'espèce a fait de telle sorte que là où il y a deux qui restent ensemble, eh bien, cet enfant a plus de chances de survivre.
Mmh. Je me permettrai quand même juste, Lucie Vincent, je sais que ça va peut-être choquer certaines auditrices, mais je me permettrai juste de dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes seules qui élèvent leurs enfants et qui sont en dessous du seuil de la pauvreté parce que justement, elles sont seules pour élever leurs enfants. Donc, quelque part, bien sûr que sur le plan de la survie de l'espèce au sens les fauves qui vont nous manger, etc. Non, mais malgré tout, il vaut mieux être deux aussi aujourd'hui pour arriver à...
Mais c'est extrêmement pertinent et la plupart des problèmes d'amour et de couple qu'on rencontre aujourd'hui viennent du fait qu'il y a un décalage entre notre biologie qui est faite pour un monde où notre survie, notre durée de vie naturelle était de 25 ans. Et aujourd'hui, on a un corps et un système biologique qui doit faire tout ce qu'il fait dans un monde où notre survie est de plus de 80 ans. Et le problème que vous soulevez est absolument typique de ça. L'amour, le contrat amour est fait biologiquement pour 3 ans. Là, ça dure environ 3 ans. Les chercheurs disent entre 18 et 36 mois. Malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, un enfant n'est pas du tout autonome à 36 mois, dans le sens où, oui, certes, il peut attraper une banane, la peler et le manger, et puis chasser un oiseau qui vient l'embêter. Ça, oui, mais il ne peut pas aller gagner sa vie. Alors, notre biologie n'est pas en accord avec le monde
actuel, oui.
D'aujourd'hui. Oui.
Alors le coup de foudre, c'est une sorte de...
Oui, donc c'est le début de l'histoire. Pour avoir un contrat amour, il faut établir le couple. Il faut que le couple se rencontre et se dise, ben voilà, nous, on va rester ensemble. Enfin, tout ça est très inconscient, hein, bien entendu. Et le début du contrat, dans les cas les plus visibles, les plus frappants, c'est le coup de foudre. Et en réalité, c'est la rencontre entre deux cerveaux qui se voient, qui se sentent, qui s'entendent, qui se touchent, qui se sentent dans le sens du toucher aussi. Et il y a un échange d'informations. Et les informations sont réceptionnées dans le cerveau pour cocher des cases. C'est-à-dire, est-ce que ça va être un bon reproducteur ou une bonne reproductrice? Est-ce que ça a l'air en bonne santé? Est-ce que ça a l'air d'être quelqu'un de fiable? Est-ce que ça a l'air d'être quelqu'un de fertile? Et donc, quand toutes les cases sont cochées, eh bien, le centre limbique fait « Wouh! Yippie! Wouh! Wouh! C'est bon! »
Oui, mais alors vous savez, Lucie Vincent, je vous écoute et je vous crois parce que je sais que ce que vous dites est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Mais alors, à mon avis, ça ne doit pas plaire à grand monde parce que c'est franchement pas très romantique ce que vous nous racontez.
Ben, ça, c'est la même chose à chaque fois. Mais je vais vous dire, si je vous dis pourquoi est-ce qu'on mange? Pourquoi est-ce qu'on mange? Vous allez me dire, oh, ben, je mange parce qu'on a besoin d'énergie. Vous allez pas me dire, on mange parce que c'est très très bon. On sait qu'il y a un but. On sait qu'il, ça sert à quelque chose. Mais le comportement humain, ça déplaît, les gens ne veulent pas. Voilà. Bon, mais je ne dis plus rien.
L'amour est donc un besoin. Vous êtes en train de nous dire que l'amour est un besoin.
Un besoin pour la survie de l'espèce.
D'accord. Mais on peut manger avec beaucoup de plaisir et on peut aimer avec beaucoup de plaisir. D'accord.
Heureusement.
On va se retrouver. Céline, justement, veut nous parler du coup de foudre. Bonjour Céline.
Oui, bonjour. Faut croire que j'ai trouvé le bon reproducteur.
Gardez-le, donc, gardez-le surtout.
J'essaye, on essaye. Donc en fait, ce qui est assez bizarre, c'est que moi, j'ai rencontré mon mari dans le cadre du travail. Bon, j'étais sa responsable, mais on avait des liens très superficiels et il n'y avait pas d'accroche plus particulière. Et lors d'un déplacement professionnel, donc nous sommes sortis le soir ensemble, bon, toujours rien de particulier, jusqu'au moment où on est rentré dans un bar et on a dansé. Et lors de cette danse, son seul contact, en fait, ça a mis une bulle autour de nous. Il n'y a plus rien qui a existé, ni la musique, ni le monde qui avait autour. Et je peux pas vous dire combien de chansons on a dansé, ni quelles chansons passaient. Et ça a été vraiment...
Vous étiez dans votre bulle.
Voilà, dans une bulle et avec un tas d'émotions et il n'y avait plus rien autour. Je crois que je ne sais pas si on a dansé une heure, une demi-heure, un quart d'heure et ça a été la même chose autant pour lui que pour moi. Et voilà, on s'est demandé si c'était un coup de foudre alors qu'on se connaissait et qu'on s'était déjà vu. Mais voilà, c'est à ce moment précis. Il y a quelque chose de très organique qui est passé avec un feu d'artifice et puis il n'y avait plus rien. Ouais,
donc votre questionnement était intéressant puisque vous étiez en train de vous côtoyer déjà depuis pas mal de temps, mais c'est à ce moment précis que se passe, entre guillemets, le coup de foudre. Lucie Vincent, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là?
Oui, souvent c'est le cas. Et puis quelquefois c'est au cours d'une connaissance graduelle. Ça n'a pas besoin d'être immédiate parce que les indices se révèlent quelquefois petit à petit et quelquefois dans un changement de contexte, comme vous décrivez, vous êtes allés quelque part de différentes ensemble, dans un contexte différent, les personnes révèlent des aspects d'eux-mêmes qu'on ne voit pas forcément au bureau, par exemple. Oui. Et donc, ça peut être à ce moment-là qu'il y a une prise de conscience de quelques petits éléments qu'on ne voyait pas avant.
Une révélation,
et le déclic se fait à ce moment-là. Mais je voulais dire aussi qu'en vous écoutant, je suis sûre que tout le monde a partagé avec moi une émotion. Quand vous parlez d'un coup de foudre, quand vous le décrivez avec les mots simples ce que vous avez vécu, tout le monde adhère à ça, entend ça et veut partager cette émotion. Et je pense que rien que ça, ça prouve à quel point dans notre conscience collective, il y a un besoin de reconnaître l'importance de l'amour dans notre vie. Et l'amour joue un rôle essentiel. Tout ce que je dis en biologie n'enlève pas ça, quand même, Brigitte.
Mais non, Lucie, je suis ravie de vous recevoir, vous le savez bien, je m'amuse.
Oui, je sens obligée de me justifier.
Et quant à la question si ça dure ou pas, j'en sais rien. Enfin, pour notre part, ça fait de nombreuses années que nous sommes ensemble et on s'aime... Comme au premier jour, c'est différent, mais on s'aime peut-être plus fort qu'au premier jour et la passion est toujours là.
Je pense que vous avez créé un attachement et puis c'est une relation qui n'est plus passionnelle comme au début, mais qui est forte parce qu'il y a de la confiance, il y a de l'engagement, enfin il y a du respect, il y a plein de choses qui sont, c'est pas anodin tout ça.
Mais l'amour est quelque chose de très complexe dans notre société parce que quand on parle d'amour, quand moi je parle d'amour, je parle de l'amour passion entre deux partenaires sexuels, tandis que l'amour s'applique à beaucoup d'autres situations dans la vie, entre les parents, les enfants, entre les amis, les cousins. Et tout le monde ressent l'amour pour des gens différents. Et ce sont différents types d'amour, avec différents engagements, différentes implications. Et l'amour entre deux partenaires sexuels peut très bien devenir un amour très profond d'amitié entre deux personnes. Donc peut-être que la passion du début ne dure pas, mais quand on trouve quelqu'un avec qui on a des centres d'intérêt en commun, des valeurs en commun, eh bien on forme une amitié très particulière avec cette personne, soutenue en plus par des rapports sexuels répétés, parce que, comme on le sait, l'ocytocine libérée pendant qu'on fait l'amour joue un rôle aussi sur l'engagement envers l'autre.
Oui, mais c'est tout à fait ce que je ressens, oui, ça correspond tout à fait avec ce que je vis.
Vous êtes la cobaye parfaite.
Merci pour tous ces éclairages. Bonne continuation.
Merci à vous d'avoir témoigné, Céline. Merci.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.
On va donner la parole à Agathe qui est avec nous. Bonjour Agathe.
Bonjour. Bonjour à votre invité Bruno Martin.
Bonjour, bonjour.
Donc c'est intéressant ce que vous me dites, visiblement, parce que vous n'avez jamais cru au prince charmant, mais quand vous avez rencontré votre homme, tout de suite vous avez su que c'était lui. Alors dites-nous pourquoi.
C'est à peu près ça. J'ai jamais rêvé de prince charmant. J'ai eu des parents qui se sont séparés. J'avais 5 ans. Après, qui ont des parents qui ont refait des couples plus ou moins bizarres, plus ou moins standards. Et du coup, j'attendais rien. Je rêvais pas du tout de mariage. J'avais pas du tout envie de me marier. C'était voilà. J'ai vécu des histoires qui tenaient entre 6 mois et 1 an. C'était déjà le bout du monde.
Ah oui.
Oui, vraiment.
J'étais méfiante. Hein.
Après coup, oui, maintenant que je le vois avec du recul, effectivement, j'étais méfiante et c'est surtout que je ne laissais pas du tout place à un homme dans ma vie. Je voulais bien qu'il vienne me rejoindre le soir, mais il fallait qu'il parte au petit matin. J'avais pas envie de déjeuner avec lui. Enfin, c'était un peu à la hussarde. Mm-hmm. Et je suis partie à l'étranger. Alors, j'entendais les 80% des personnes qui se rencontrent dans le même département. Alors, moi, je suis partie vivre à l'étranger, à Cuba. Mmh. Et j'y suis partie vraiment pour bosser et faire la fête. Voilà, c'était tout. Et au bout de 15 jours, j'avais rencontré mon futur mari.
Un autochtone, comme on dit.
Exactement, mmh. Un local. Un Cubain, avec éventuellement toute la peur que ça peut engendrer, pas pour moi, mais pour ma famille, les gens qui m'entouraient, qui étaient restés en France, parce que, alors peut-être un petit peu moins maintenant, oui, beaucoup moins maintenant, mais à l'époque, je parle de ça il y a plus de 15 ans, on savait que les Cubains cherchaient beaucoup à se marier pour partir.
Bien sûr.
Moi, j'ai rencontré un des rares Cubains qui voulait pas du tout sortir de Cuba, qui n'aimait pas la France, en tout cas de ce qu'il en avait vu, parce que au niveau tourisme, les Français sont juste exécrables à l'étranger. C'était assez étonnant. Et c'est vrai que très rapidement, j'ai eu, c'est-à-dire que tout me plaisait. Alors, passer l'euphorie, que ça soit avec lui ou les autres, passer l'euphorie du premier mois, on va dire, mm-hmm. Tout d'un coup, il y avait quelque chose d'extrêmement fluide et d'extrêmement serein. Et on a envie de s'engager quand on s'implique et que c'est réciproque. Tout d'un coup, on se sent très rassuré. C'est vraiment ça. C'est un sentiment de sécurité, sans pour autant savoir tout de l'autre et avoir à être rassuré à 100%. Parce que
mais j'ai bien aimé ce mot que vous avez dit, c'est fluide. Je crois que ça exprime bien, enfin en tout cas c'est très imagé de ce qui se passe quand en effet on se lâche, on s'engage, on fait confiance, on avance.
Exactement. Effectivement, il faut un lâcher prise hein, quand même un petit peu, je pense.
Quand on tombe amoureux, on entend souvent les gens quand ils sont tombés amoureux dire oui, effectivement, c'est comme si ça allait de soi,
oui.
Les choses se déroulent comme ça, etc. Et là, vous relatez deux choses qui sont très importantes dans l'attraction amoureuse qui sont dans les premier chapitre du livre, d'ailleurs, c'est l'attirance pour qui se ressemble finalement sur les grandes valeurs, la façon de penser s'assemble, et l'attraction pour ce qu'on appelle un étranger familier. C'est-à-dire tout ce que je n'ai pas, tout ce dont j'ai pu rêver et qui ne m'appartient pas et qui va me tirer vers le haut. Le goût de l'aventure. Et vous voyez, tout ce qui a ressemblé à vos modèles, à des modèles parentaux éventuellement, vous les avez rejetés, vous n'avez pas pu vivre plus de 6 mois avec. Et là, l'étranger familier a été une vraie magie pour vous.
Oui, oui, je suis complètement d'accord. C'est vrai que sur le coup, je ne l'ai pas du tout vu comme ça. Puis on ne se pose pas ces questions-là en le suivant, bien évidemment. Mais c'est vrai que tout d'un coup, c'était dans sa globalité. Avant, je me souviens qu'il fallait qu'il soit grand, qu'il soit brun, qu'il soit bien habillé. Là, je m'en fichais, je l'ai rencontré, il était habillé comme un plouc. et ça ne me dérangeait pas, quoi. Pourtant, je le voyais, mais ça ne me dérangeait pas. Et voilà, ça fait 16 ans.
Oui, donc là, il y a vraiment un coup qui dure. Merci Agathe, merci beaucoup.
RMC, La Haye, l'amour et vous. RMC, La Haye, l'amour et vous. Brigitte La Haye.
Dans quelques instants, on profitera du témoignage de Natacha et qui nous racontera ses premières expériences amoureuses et sexuelles. Et puis nous aurons Claire également, qui a 26 ans et qui vient tout juste de connaître son premier coup de foudre. Mais tout de suite, c'est Lucie Vincent qui nous expliquait en quoi l'amour est véritablement quelque chose de concret. Ce que vous avez fait, tout simplement, c'est nous expliquer que c'est bien réel, quoi, en fait. C'est, évidemment, c'est de l'ordre des
émotions. Mais oui, je crois
émotions,
que c'est plutôt bien d'expliquer que c'est quelque chose de très concret. Et on peut... D'ailleurs, si on donne, par exemple, des drogues qui empêchent la libération de dopamine, eh bien, on coupe tout de suite l'élan d'amour. Hein, le coup de foudre ou l'état amoureux, c'est très facile à démontrer que c'est quelque chose qui se passe dans le cerveau et qui dépend des neurotransmetteurs. Hein.
Oui, et donc on peut peut-être imaginer un jour créer le filtre d'amour.
Ah, mais ça, si il y avait une réponse positive à ça, j'aurais fait fortune, parce que le nombre de fois qu'on me l'a demandé. Mais je dis toujours que, en fait, c'est un échange qui donne lieu à un coup de foudre, un échange entre deux cerveaux. Et ces deux cerveaux se renvoient des messages, les capturent et en renvoient d'autres, mais des centaines à la fois, parce que c'est très inconscient et il y a énormément de messages qui s'échangent. Alors vous pensez qu'à chaque message, il y a une modification des circuits d'information dans le cerveau. On ne peut pas reproduire ça. Et chaque histoire d'amour est unique. Même si on a plusieurs histoires d'amour au cours de sa vie,
c'est jamais la même chose.
Jamais la même chose.
Je crois que tout le monde est d'accord avec ça. Natacha, bonjour.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité.
Bonjour.
Bon, j'apprécie vraiment les éclairages.
En tout cas, Lucie est ravie, hein, parce que...
Oh, enfin, ouais, pour une fois, quelqu'un qui apprécie ce que je dis.
Ah, oui, vraiment, c'est très intéressant et ça fait écho à l'expérience que je peux avoir. Et vraiment, vraiment, c'est très intéressant, c'est enrichissant. Je voulais notamment participer pour éclairer peut-être des jeunes, parce que moi, j'ai eu mon premier baiser à 12 ans, ma première relation sexuelle à 14 ans, ce qui est quand même très, très tôt. Oui. Mais je voulais... faire part de mon expérience, parce que moi j'en garde un souvenir mais vraiment exceptionnel. J'ai eu mon premier baiser et ma première relation sexuelle avec la même personne. C'était un garçon qui l'a vécu avec moi pour la première fois, donc c'était une première pour tous les deux. Et donc ça avait...
Et vous aviez à peu près le même âge ?
On avait exactement le même âge. Et donc on a tout découvert ensemble et ça avait un côté extrêmement charmant, plein de tendresse, plein de peur aussi, hein, il faut pas se mentir, plein d'angoisse, mais finalement, étant tous les deux angoissés, tous les deux dans la même situation, on a été très complices, on a pris notre temps et finalement j'en garde un excellent souvenir. C'est quelqu'un qui aujourd'hui bien sûr a fait sa vie, moi aussi, mais quand je pense à lui ou quand j'ai de ses nouvelles, finalement je me dis qu'on partage quelque chose d'assez exceptionnel, qui, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour lui, mais en tout cas pour moi, m'a donné énormément confiance en moi, d'un point de vue sexuel, entre guillemets, m'a donné de l'assurance, m'a montré qu'en fait tout était possible à partir du moment où on se respecte et où les choses se font avec tendresse et avec complicité. On pouvait aller finalement assez loin et on pouvait vaincre ses peurs, ses angoisses. Donc pour moi, ça a été une expérience vraiment fondatrice, en fait, de ma relation sexuelle. Aujourd'hui, j'y pense encore, c'est pour vous dire. C'est quelque chose qui, finalement, m'a construite, même si j'étais finalement très, très jeune.
Oui, mais je pense que vous deviez être deux adolescents très, très proches, très, très dans une relation d'amitié, de miroir. Et finalement, vous avez tout doucement gravi, si je puis dire, les échelons de la sexualité, quoi.
Exactement, on les a gravis ensemble. Alors c'était pas des relations sexuelles comme on peut avoir à 30 ans. Hein.
J'imagine bien, oui. Mais c'est très bien, c'est très bien justement, parce que ça a été en douceur.
Exactement.
Et profondeur, dirait certains.
Et on s'aimait beaucoup. Je pense qu'il y avait vraiment beaucoup d'amour, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est si jeune, mais je pense qu'on était très amoureux. Et c'est quelqu'un qui n'était pas très beau physiquement, mais vraiment pas. Et finalement, j'ai eu le coup de foudre. Donc je voulais juste apporter un petit éclairage. Je pense que le coup de foudre, on croit souvent que finalement c'est une attirance physique. Et moi, je suis convaincue que ce n'est pas qu'une attirance physique. Et depuis 10 ans, 15 ans que je rencontre pas mal d'hommes, j'ai toujours eu l'impression que les coups de foudre, ou du moins les attirances, elles se provoquaient parfois par des odeurs. Bah, moi, oui. J'ai l'impression, j'ai souvent aimé des garçons qui avaient une odeur très particulière. Alors, je ne sais pas si votre invité pourra éclairer là-dessus, mais
vous êtes une chienne, Natacha, alors.
Pas du tout. C'est exactement ce que j'allais vous dire quand vous avez dit qu'il n'y a pas que le côté physique. Les odeurs sont très, très importantes. Non seulement les odeurs, mais des molécules qui sont dans l'air et qui passent par le nez, mais qu'on n'a même pas d'odeur, hein, qui sont des messagers chimiques du corps de l'autre. Nous ne voulons pas admettre ça. C'est un sujet pas du tout à la mode et je me fais vraiment descendre chaque fois que j'en parle. Mais les phéromones sont des éléments qui guident quelque part nos comportements. Nous sommes des sources d'informations en permanence pour des gens autour de nous par les phéromones que nous émettons dans l'air. Et quelquefois, vous pouvez vous asseoir à côté de quelqu'un dans le train ou n'importe, et il n'a pas d'odeur particulière, vous ne l'avez même pas vu, parce qu'il faut tourner la tête pour voir, et vous sentez tout de suite très à l'aise à côté de cette personne.
Ouais, c'est vrai.
Hein? C'est vrai. Bon, donc il y a les odeurs et les phéromones, mais bien sûr, quelqu'un va appeler pour me dire, mais quand même, il y a la conversation. Mais bien sûr qu'il y a la conversation. Comme si la conversation n'était pas un élément biologique aussi. Non, ça vous fait rire, vous voyez.
Mais oui, vous me faites rire, Lucie. D'abord parce que j'adore votre accent et ensuite parce que on sent que vous avez besoin de vous défendre. Mais vous êtes... moi, pour revenir sur les phéromones, je pense toute personne qui a des animaux, notamment des chiens, sait très bien que quand quelqu'un est face au chien et a peur, les chiens le sentent immédiatement. Donc pourquoi nous qui, alors bien sûr, on a un odorat moins développé.
On sent que l'autre est mal à l'aise ou pas.
Et pourquoi nous on serait inférieur à l'animal,
enfin. On aurait moins de capacité de compréhension inconsciente que notre chien. Oui, mais vous avez absolument raison. Et pour revenir juste sur votre histoire d'amour qui a démarré à 14 ans, si on regarde d'un côté biologique, mais c'est ça qui est normal. Hein. Ce qui n'est pas normal, c'est d'attendre 25 ans avant de tomber amoureux. C'est à 14 ans, à la puberté, où tous les systèmes sont en éveil.
Dès qu'on peut se reproduire, en quelque sorte. Hein.
Et ma sœur, qui est sage-femme, me dit toujours que quand un jeune arrive pour accoucher, qui a moins de 20 ans, ce qui dans le monde d'aujourd'hui est quasi honteux, hein, elle me dit que les naissances à ce moment-là, elle sait que ça va être très facile, que ça va se passer très vite, que tout va aller sur des roulettes. Et donc, vous voyez, vous étiez biologiquement parfaitement dans les temps.
J'ai pas d'enfant encore, j'ai 35 ans, donc je suis pas vraiment dans les temps.
Là, il y a une erreur, Natacha. Ouais.
Je suis pas précoce pour me reproduire, mais je l'ai peut-être été pour faire l'amour. Voilà, bon, on est précoce pour certaines choses et pas pour d'autres.
Mais c'est ce qui est intéressant, Natacha, vous voyez, c'est que au fond, on est très souvent beaucoup plus imprégné de notre culture et on oublie des choses plus naturelles finalement.
Mais tout le temps.
Et je crois que c'est vraiment toujours important de revenir. Moi, j'aime beaucoup par exemple l'anthropologie parce que justement, ça nous explique un peu comment fonctionnait l'être humain bien avant notre culture. Et je crois que on est un mélange de tout ça, et puis après, il faut que chacun y trouve son compte.
Hein. Absolument, et la culture est merveilleuse, on ne dit pas l'inverse, mais quelquefois on se pose des problèmes et on se gâche la vie pour des choses qui n'en valent pas la peine. Si on prend un peu de recul et on se voit d'un point de vue, bon, on a une vie, elle n'est pas si longue que ça, et il faut en profiter.
Et profitons donc du coup de foudre, et c'est ce que fait Claire, visiblement. Bonjour Claire.
Bonjour.
Vous avez 26 ans, vous êtes en plein coup de foudre, hein, c'est ça?
Exactement. Wow. J'ai ce bonheur-là en ce moment.
Et ça fait 3 semaines, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, on s'est croisés il y a un petit peu plus de 3 mois. Et déjà, il y avait eu quelque chose, mais lorsqu'on s'est revus, en fait, ça a été le réel coup de foudre. Et depuis, je ne peux plus me passer de cette personne.
Mais oui, c'est normal.
Et c'est réciproque?
A priori, ce serait réciproque.
Ouais, voilà. Donc vous pensez à lui à chaque seconde.
Tout à fait, exactement. C'est la personne que j'attendais et le coup de foudre est arrivé. Donc voilà.
Non, ça fait 3 semaines et la question que les gens posent toujours dans ces cas-là, c'est est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est, bon, enfin, on se pose pas la question. On est convaincu que ça va durer. Donc, quand on est dans cet état-là, mais les chercheurs ont beaucoup regardé pour voir quand on est vraiment passionnément amoureux, quels sont les couples qui vont durer et quels sont les couples qui vont laisser tomber au bout des fameux 3 ans.
Bon, vous voulez la réponse, Claire, ou pas?
Ah oui, j'aimerais bien.
J'allais vous donner la recette.
Alors, on vous écoute aussi.
C'est très simple. Il faut que chacun prenne une feuille de papier Et il faut marquer dessus les qualités que vous appréciez chez votre partenaire. Et on constate que plus les feuilles sont fournies de faits, plus les couples ont des chances de durer. Parce que ça veut dire qu'il y a une vraie connaissance de l'autre. Qu'on n'est pas en train de surfer sur une vague de bonheur sans profondeur, mais on est en train déjà d'entamer ce processus de prise de connaissance et d'appréciation des valeurs et des façons d'être de son partenaire.
Bon, alors, il a des qualités, votre amoureux ?
Ah oui, énormément.
Ah, bon, alors ça va.
Énormément. Bon. Je crois que je ne trouve pas encore de défauts, en fait.
Oui, mais ça, c'est normal.
Oh non, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est l'aveuglement de l'amour. Et ça, c'est un phénomène neurobiologique aussi. Hein. Quand on dit que l'amour est aveugle, en réalité, c'est parce qu'il se met en place un processus d'inhibition de tous les éléments négatifs qui arrivent de l'autre personne. Et on ne les voit pas. Ou si on les voit, notre cerveau nous dit que ça n'a aucune importance.
Mais oui, c'est justement pour pouvoir s'investir et,
oui, c'est pour,
et
oui,
s'engager.
C'est absolument essentiel. C'est un des caractéristiques de l'état amoureux.
Donc vous êtes vraiment dans l'état amoureux, Claire. Profitez-en.
Ben écoutez, je vous remercie. Si je peux me permettre de lui faire passer un message,
bien
je
sûr.
T'aime très fort.
Ben
oui. Je t'aime très très fort.
Merci. D'accord. Claire.
Ben écoutez, je vous remercie. Au revoir.
Au revoir.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.
Nathalie, vous êtes avec nous. Bonjour Nathalie.
Bonjour Brigitte, bonjour Frédéric.
Vous pensez que la sexualité est le baromètre du couple. Et moi, je suis assez oui. d'accord avec ça, mais ce n'est pas la quantité, évidemment, c'est la qualité de la sexualité qui est le baromètre. Hein. Vous êtes d'accord, Nathalie ?
Oui, effectivement. Pour moi, effectivement, la sexualité dans un couple va être un baromètre qui va permettre justement de vérifier où est-ce qu'on en est à un instant T. Début, dans un couple, on fait énormément l'amour, tout va bien, tout va très bien, et puis petit à petit, il y a le quotidien qui va rentrer en ligne de compte et on va peut-être moins faire l'amour. Et justement, on va se rendre compte qu'on va rentrer un peu plus, moi c'est mon avis personnel, dans le quotidien et on va peut-être moins penser à l'autre, moins échanger avec l'autre et donc faire moins l'amour aussi à ce moment-là. Et je pense qu'il est important de regarder dans ces moments-là, quand on fait moins l'amour avec l'autre, de se dire, ah, attention, est-ce que je suis pas un petit peu loin de lui ? Est-ce que, quelque part, je le délaisse pas un petit peu ? Et justement, de renverser la vapeur pour pouvoir justement redonner du dynamisme dans le couple.
Oui, c'est très 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 juste ce que vous dites, parce qu'en effet, bien sûr, avec le temps, on a tendance à faire moins l'amour. Il faut pas s'endormir, il faut rester alors vigilante, pas tous les jours, mais il faut y faire attention, oui.
Oui, je pense que c'est ça qui est important, arriver à y faire attention. Alors, après, c'est vrai que c'est pour ça que j'estime que c'est un peu le baromètre. Alors, c'est pas toujours évident, hein. Il faut se laisser vivre, il faut se laisser aller. D'un autre côté, c'est pas toujours évident, je trouve, parce que on est très vite rattrapé par la vie, par le stress, par le boulot, par le quotidien, et on s'oublie un peu soi-même.
Alors, baromètre du couple, je suis bien d'accord avec vous. J'ai envie d'ajouter baromètre de l'individu aussi. Si, par exemple, votre partenaire a un problème au niveau sexuel, un changement dans son désir, je crois que l'attitude à avoir, c'est de l'interroger sur ce changement. Parce que ce qui se passe, c'est peut-être pas nécessairement lié au couple. Ça peut être quelque chose qui est complètement lié à lui ou à elle. Si on revient sur la baisse du désir chez la femme, 9 fois sur 10, elle n'est pas liée à un problème amoureux dans le couple. Et il y a d'autres facteurs. Il y a des femmes qui prennent des médicaments antidépresseurs, par exemple. Ça peut atteindre la fatigue, j'en parlais tout à l'heure, sur l'âge. Donc, je suis d'accord sur l'excès de baromètre de couple, mais attention à ne pas penser, dès qu'il y a un problème de sexualité dans le couple, qu'il y a un problème de couple. Voilà.
Oui, c'est vrai. C'est aussi important et c'est là aussi que je voulais en venir, c'est qu'effectivement, obligatoirement, ça va être un baromètre aussi bien bon pour le couple, mais aussi pour soi-même, pour voir aussi où est-ce qu'on en est, nous, dans le couple, vis-à-vis de l'autre, et où en est l'autre dans son couple vis-à-vis de nous.
Mais en même temps, je crois que c'est important de le signaler. Il ne faut pas s'inquiéter non plus aux premiers petites baisses de désir. En revanche, je crois que vous allez le confirmer, Frédéric Fanger, il faut aller consulter plutôt trop vite que trop tard. Parce que quand on va consulter trop tard, c'est très compliqué pour remettre les choses en place.
Oui, à condition de consulter des gens positifs.
Oui, bien sûr.
Non, mais on en parlait tout à l'heure. Hein. Attention à la culpabilisation des patients dans ce domaine et parfois même, j'ose le dire, au transfert des thérapeutes de leurs propres problèmes dans leurs consultations. Donc je crois que, en gros...
Je ne cesse de dire que malheureusement, tous les thérapeutes ne sont pas bons. C'est comme tous les boulangers ne font pas du bon pain. Hein. Donc choisissez bien.
Non, mais qu'on soit pas bon dans tout, c'est une chose. Mais si on se sent pas dans un domaine, il faut pas y aller. Et moi, je vois beaucoup de couples qui en fait sont des couples qui sont pas si malades que ça en tant que couple, simplement qui se posent des tas de questions parce qu'on les culpabilise. Il y a pas que les thérapeutes, il y a les messages généraux qui traînent ou maintenant, qu'est-ce que je vous dis, faut être la superwoman, faut avoir son pied tout le temps, faut être parfaite au travail, faut être parfaite en tout. Donc dès qu'il y a un problème, ils arrivent, oh là là, ça va plus, il m'aime plus, je l'aime plus. Bon, hein, il faut reprendre les choses tranquillement et à chaque fois faire une analyse avec ce que j'appelle le 1 plus 1 égale 3 dans mon livre pour reprendre cette histoire de baromètre du couple. Le couple, c'est le 3, c'est ce qu'on construit ensemble. Mais il y a deux 1 qui sont chacun des deux membres du couple. Et le problème peut être au niveau d'un 1, c'est-à-dire du conjoint ou de la conjointe, ou au niveau du couple. Il ne faut pas systématiquement penser que c'est au niveau du couple qu'il y a un problème. En tout cas, en pratique, moi je travaille essentiellement sur le rétablissement de la communication dans le couple, que le problème soit sexuel ou autre. Hein. Eh bien, il y a beaucoup de gens pour qui ça suffit. Et on les met sur la voie de la communication quand ils n'y arrivent pas, et ils deviennent très vite capables de le faire eux-mêmes. Et comme je leur dis souvent, c'est vous qui allez gérer votre couple pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, c'est pas moi. Donc moi, j'interviens simplement pour vous donner des petits outils, un petit outil de compréhension, vous montrer ce qui va pas, vous aider à le résoudre, on le fait ensemble 2-3 fois, et puis voilà. Donc, il faut consulter des gens qui vont accepter de vous voir comme ça, juste quelques fois, par exemple, et qui vont vous laisser l'initiative de votre couple. Ils vont vous aider. Ils ne vont pas être là pour résoudre les problèmes à votre place.
C'est la fameuse phrase, il vaut mieux apprendre à pêcher que donner du poisson.
Exactement.
Bien sûr.
Exactement.
Merci Nathalie.
Merci, bonne journée.
Merci beaucoup.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.